Alors voilà, c'est parti. Alors, cher Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, on est rendu à la page 10, le point 1.5, si je ne m'abuse. Alors voilà, Virginie, voudrais-tu lire, s'il te plaît?
Avec plaisir, Hare Krishna. Ainsi, lorsqu'un homme doué d'intelligence apprend des livres de loi et des textes révélés, les sastras, que voler est un crime et que tout malfaiteur qui se fait prendre sera arrêté et châtié, il s'abstient de le faire. La vie humaine est faite pour être calquée sur les instructions de Dieu que l'on peut retrouver dans les sastras, des textes révélés. Les sastras ne sont pas sujets aux imperfections des êtres conditionnés. Les textes juridiques reprennent les enseignements des sastras selon bon leur semble. Des fois, ça clique, des fois, ça clique pas du tout. Par exemple, commettre un meurtre n'est nullement approuvé par les Écritures. Tu ne tueras point. Ce n'est certainement pas difficile à comprendre. Mais quand la justice humaine veut faire la sourde oreille, la moralité humaine endossera l'existence d'abattoir et l'avortement libre. Mais les lois de la nature ne fonctionnent pas à coup de décrets humains. Les lois de la nature sont immuables et tout pécheur devra en assumer les conséquences. Telle est la moralité à son meilleur. 1.6. Mais l'homme d'intelligence moindre devra d'abord subir arrestation et punition avant de comprendre qu'il ne faut pas voler. Ce n'est pas tout le monde qui a le même degré d'intelligence. Les devises d'égalité de tous les hommes ne veulent rien dire. Comme toujours, il y a les bons et les méchants. Tous deux affichent un comportement fort différent. L'un est digne d'un ivrogne qui rentre saoul à la maison, et l'autre est sobre avec toute sa tête sur les épaules. La loi du karma agit à la moindre déviation. Un humain est tenu responsable de ses actes de par les lois de la nature. 1.7. Quant à la crapule, il continuera ses crimes même après avoir vu et entendu, et même après avoir été puni. Quand l'esprit est pourri, tout devient sujet à pourriture. Les exemples abondent dans le monde matériel. Cœur impur, actes impurs. Esprit vil, zéro intelligence, telle est l'équation. C'est mathématique. Il faut que la conscience de Dieu soit injectée dans le cerveau pur, que le comportement soit rectifié. Autrement, c'est pratiquement peine perdue. L'emprisonnement n'y sera pour rien. Les politiciens auront beau prolonger les peines d'emprisonnement, à quoi sert si le cœur des prisonniers n'est pas transformé par une prise de conscience de Dieu? À ce niveau-là, le point sensible demeure entre les mains de l'individu, son bon vouloir. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté, nous dit l'Évangile selon Luc 2.14. La bonne volonté est caractéristique des personnes saintes. La volonté de plaire à Dieu intérieurement comme extérieurement constitue ce qui est digne d'être appelé bonne volonté. Avec de la bonne volonté de plus en plus poussée, un homme peut mener une vie transformée en termes de vertu. Il ne manque plus que le chant des saints noms pour couronner le tout.
Jai, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, pas spécialement, parce que c'est en fait, on peut, on... que les lois du Seigneur sont immuables et intransigeables, en fait. On peut créer nos propres lois, quoi qu'il en soit, c'est la volonté de Dieu c'est la volonté de Krishna qui doit s'affirmer et qui...
Oui, comme Prabhupada le dit souvent, les lois de la nature sont très strictes. Et puis, il n'y a personne qui peut vraiment déroger aux lois de la nature sans des conséquences. Alors, voilà. On va continuer, 1.8. Benoît, voudrais-tu lire?
Oui. Okay. 1.8. Châtié par l'État, ayant ainsi expié ses fautes, un homme de ce genre récidive dès sa sortie de prison. Joey Matamor n'est pas du tout ce qu'il paraît être. À la moindre liberté, il est sûr de répéter les mêmes sottises qui l'ont jeté en prison. Après tout, plus ça va, Ce n'est qu'une question de temps avant que notre matamor trouve sa fin dans de bien mauvais draps. 1.9. Si l'emprisonnement doit permettre au voleur de racheter ses fautes, mais qu'il reprend, une fois libre, ses activités manifestantes, quelle peut être la valeur de son expiation? On revient au même point. Tout revient à la pureté ou à l'impureté de l'esprit. Une cocotte minute remplie de boue ne sert absolument à rien. De la même manière, un esprit dévergondé ne vaut rien qui vaille. 1.10. Telle est la question du Maharaja Parikshit rapportée dans le Srimad Bhagavatam 6.1.9-10. Dirshta
Oui, laisse faire le sanskrit. 1.11, s'il te plaît.
1.11. Il compare ce genre d'expiation au bain des éléphants. L'éléphant peut prendre un bon bain dans la rivière, mais sitôt sur la berge, il se couvre à nouveau de poussière. Que lui vaut alors de s'être si soigneusement baigné? C'est la logique même. 1.12. Pareillement, de nombreux spiritualistes chantent le Mahamantra Hare Krishna tout en se livrant à des actes défendus pendant que le chant neutralisera, pensant que le chant neutralisera leurs fautes. Et finalement, le problème de la duplicité. Le problème vaut aussi pour toutes sortes de pratiques religieuses empreintes de duplicité. Tout va dans le même panier. Mais plus qu'on y est, qu'est-ce que la duplicité? La notion de duplicité est sous-entendue dans le Srimad Bhagavatam 1.1.2. Ce Bhagavatam Purana, entièrement opposé à tout acte de religion que motive un quelconque désir matériel, dévoile la vérité la plus haute, accessible aux dévots dont le cœur est pur. Cette vérité la plus haute est la pure réalité, qu'il distingue par le bien de tous de l'illusion et elle met fin aux trois formes de souffrance. Ce magnifique Bhagavatam, compilé par le grand sage Sri Vyasadeva, suffit à lui-même à conférer la réalisation spirituelle, la réalisation de Dieu, et celui qui écoute ces messages de manière attentive et soumise s'attache dès lors fermement au Seigneur suprême. La duplicité, c'est d'entretenir des désirs matériels tout en se voulant pratiquer une vie spirituelle. La duplicité est avec soi-même d'abord, autrui ensuite. Remède? Purifier son cœur au plus vite. Comment? En acceptant de se conformer de tout cœur aux enseignements des Écritures révélées. Tel est le début, le reste vient avec l'intelligence spirituelle accordée par Dieu dans le cœur d'un dévot sincèrement désireux de se purifier par la pratique du service de dévotion. Si un dévot se veut vraiment pur, il évitera tout ce qui est défavorable à la conscience de Krishna et acceptera tout ce qui est favorable à la conscience de Krishna. Encore là, une question de cœur pur, d'un esprit pur. 1.13.
Est-ce
Parmi
qu'il y a
les
des questions, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ouais,
Donc.
c'est qu'on nous dit bien d'être authentique puis d'être vrai dans notre démarche. Faut mettre en pratique ce qu'on apprend, dans le fond.
Exactement. Mais il faut, tout ça, c'est très bien. Et pour un dévot qu'on dit néophyte, il semble que ça colle pas tout à fait du premier coup, la conscience de Krishna, dans le sens que se débarrasser des anartha, anartha veut dire les impuretés, les mauvaises habitudes, et ainsi de suite, ça prend du temps. Et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la pureté ne va pas prendre le dessus à un moment donné. Alors, c'est pourquoi c'est dit on va lire ça dans le Upadeshamrita, les qualités ou les critères qui sont favorables pour arriver au pur service de dévotion Une de ces qualités-là ou critères, c'est la patience. Il faut avoir beaucoup de patience dans le cours de la pratique de la conscience de Krishna. Alors, si on est patient, si on est déterminé, si on est fidèle aux vœux qu'on se doit de suivre, qui est recommandé de suivre dans la conscience de Krishna, il y a quatre principes, tout le monde les connaît. Alors, si on s'en tient à ça, on va finir par, disons, mettre la tête hors de l'eau et finir par comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire une vie purifiée plutôt qu'une vie, disons, impure. Alors, pour s'aider dans cette voie, alors, il faut pratiquer aussi fidèlement que possible l'association des dévots qui sont plus avancés que soi, l'écoute régulière du Srimad Bhagavatam en particulier, l'écoute de la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Et comme c'est dit, à chaque fois qu'on fait une classe de Srimad Bhagavatam, on chante une prière. Laquelle prière est tirée du Srimad Bhagavatam lui-même? Nastapreshu Abhadreshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati. C'est un verset du Srimad Bhagavatam qui dit que avant de réciter le Srimad Bhagavatam, on devrait offrir notre hommage à l'auteur même du Srimad Bhagavatam, qui est l'auteur du Srimad Bhagavatam?
Vyasadeva.
Vyasadeva. Alors, on offre son hommage à Vyasadeva. On offre son hommage à tous les dévots, finalement, qui font partie de la succession disciplique. Et puis, l'écoute régulière du Srimad Bhagavatam va nettoyer le cœur de celui, justement, qui écoute régulièrement et qui est très, très désireux d'écouter le message spirituel. Alors, ça, c'est la façon. C'est la façon de faire. C'est très efficace. Et puis, si on est constant, ben, ça peut pas faire autrement que d'amener une purification. Alors, des fois, la purification peut sembler évidente, puis d'autres fois, elle n'est pas évidente du tout. Alors, je vais vous donner un exemple. Au temple, les dévots font l'adoration tous les matins et à tous les soirs, ça dépend des temples. Ils font l'adoration de la plante Tulasi. Alors, des fois, on peut se demander, est-ce que les dévots comprennent même le chant qu'ils font quand ils chantent les prières à la plante Tulasi. Alors, c'est expliqué que c'est très, très puissant spirituellement faire l'adoration de la plante Tulasi. Alors, après la cérémonie, quand on dit tu retournes chez vous, là, pas évident. Mais les Écritures nous enseignent que c'est comme ça. C'est pour purifier, ça va purifier. Et ça purifie de beaucoup de péchés. Et le Maha Mantra aussi, ça purifie de plus de péchés qu'on est capable d'en commettre dans toute une vie. Alors là, ça c'est comme la poudre récurrente. Ici au Canada, on appelle soit du Old Dutch ou du Ajax. Je sais pas comment ils appellent ça ailleurs, là. Du Vim, c'est en Allemagne, c'est du Vim. Maintenant, au Canada, on a du Vim. Ils importent le Vim. Ah, c'est la même chose. Tu mets mets du Ajax, ça va partir. Et puis, c'est le Maha Mantra, c'est comme ça. Alors, mais comme il y avait un dévot que j'aime bien de Montréal, qui s'appelait Nandikeshwara. Et quand il était au temple, que j'étais au temple dans les années 80 avec lui, alors on faisait le programme du matin, puis des fois j'ai entendu Nandi qui disait pas tout à fait dans ces mots-là, là, mais juste pour situer dans le contexte, qu'on est tellement impur. Notre purification, c'est comme frotter du charbon. Alors, frotte, frotte, frotte le charbon. Quand est-ce que ça va devenir blanc? Ça risque de prendre beaucoup de temps. Alors, mais quand même, il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance que le processus fonctionne, puis on peut s'en apercevoir. Alors, même dans les premiers jours, première semaine de la pratique de la conscience de Krishna, qu'est-ce qu'on peut constater, qu'on peut observer? Ça, c'est expliqué même par Srila Prabhupada dans le Upadeshamrita, dans le mantra 5, sur lequel je travaille en ce moment, en passant. Alors, Prabhupada explique qu'est-ce qui se passe quand on a un attrait pour la conscience de Krishna, c'est qu'on perd le goût pour le matériel. On est prêt à sacrifier des conforts personnels, mais pour l'amour d'être avec des dévots et pratiquer la conscience de Krishna. Alors, comme Prabhupada dit, dans le mouvement de la conscience de Krishna, il y a beaucoup de disciples qui viennent de familles très aisées et dans lesquelles familles ils avaient toutes les facilités pour se gratifier les sens, mais ils ont laissé tomber pour l'amour de l'association des dévots et pratiquer la conscience de Krishna. Alors, comme on dit, le détachement du matériel et l'attachement à Krishna, c'est la même chose. L'un va pas sans l'autre. Alors ici, ça a été dit dans la lecture là qu'on vient de faire. C'est quoi? Une minute. C'est quoi la duplicité? La religion? La religion dans laquelle il n'y a pas de duplicité. Qu'est-ce qui fait que, OK, ici on le définit, là, à la page 12, ligne 42. La duplicité, c'est d'entretenir des désirs matériels tout en se voulant pratiquer une vie spirituelle. Alors là, il y a quelque chose qui, tu sais, c'est comme le feu et l'eau. Soit t'as un, soit t'as l'autre, mais tu peux pas avoir les deux ensemble. C'est just too bad. Alors, la vie spirituelle, ça veut dire qu'on devrait se purifier. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de désir matériel, mais avec le temps, ces désirs matériels-là vont diminuer et finalement disparaître. Alors, c'est proportionnel au désir de plus en plus fort d'un dévot de vouloir se concentrer uniquement sur le service offert à Krishna. That's it, that's all. Alors, ça vient avec le temps, ça. Ça prend du temps. Et ça finit par arriver. Et ça, c'est la grâce de Krishna, d'avoir de moins en moins de désirs matériels et s'apercevoir en cours de route que les désirs matériels nous rendent pas plus heureux qu'il faut. Pourquoi?
C'est du plaisir éphémère.
Exactement. On est une âme éternelle. On peut pas être satisfait à courir après des désirs matériels. Ils vont être là, mais c'est des plaisirs qui, donc, qui gravitent. C'est pour le corps matériel. Désir spirituel, ça veut dire servir Krishna. Comment on peut dire? La sphère d'action des désirs matériels, puis la sphère d'action de désir spirituel, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est dans l'oubli de Krishna. Et c'est soi-même qu'on se prend pour Krishna. Puis l'autre, ben, c'est Krishna. Puis soi-même, on se prend pour l'humble serviteur éternel de Krishna. Pas pareil, c'est pas le même sentiment qui est ressenti de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
La purification, dans le fond, c'est un processus que je considère, puis c'est un processus qui parfois nous met à l'épreuve pour prouver notre sincérité aussi. C'est pour ça que des fois ça paraît plus long ou on paraît chuter parce que on est mis à l'épreuve parfois, j'ai l'impression.
Oui, Krishna, Prabhupada l'explique ça. Prabhupada donne l'exemple. Là, on parle pas nécessairement de désir matériel, parce que dans le cas que je vais vous donner en exemple, c'est un pur dévot qui n'a pas de désir matériel, mais qui est mis au test par Krishna. Alors, ce dévot-là, Prabhupada dit, c'est il y en a plus qu'un, là, mais un cité en exemple, c'est Prahlad Maharaj. Son père, Hiranyakashipu, a voulu le torturer, voulait le tuer par toutes sortes de moyens. Puis il a passé à travers toutes les épreuves. Et ça, c'était un test pour lui. Alors, il faut faire attention. Moi, personnellement, j'endosse pas trop ce genre de mentalité-là, à savoir de « Ah, ben Krishna est en train de me tester. » Je sais pas, moi, je digère pas ça, cette philosophie-là. J'aime mieux, je sais pas, là, ça, c'est bien personnel à moi, dans le sens que je préfère faire, entre guillemets, mes petites affaires de service de dévotion. Et puis, pas m'occuper, c'est un test, pas un test. C'est déjà beau comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon opinion personnelle. Mais j'entends des dévots d'un fois qui considèrent, telle chose, ben, Krishna est en train de me tester. Bon. Mais ça dépend, c'est quoi le test? Je sais pas, moi, si le dévot était un fumeur, 2 paquets de cigarettes par jour, puis là, ben, ça fait un mois qu'il a arrêté, puis là, d'un coup, il passe de... Vous avez un groupe de personnes, c'est à la rue Sainte-Catherine, puis tout ce beau monde-là fume. Là, je veux bien croire que là, ah oui, ça, c'est tout un foutu test dans lequel je suis en train de passer à travers. Mais... Comme on dit en anglais, what's the big deal? C'est parce que lui a fumé que c'est comme ça. Mais pour l'autre qui a jamais fumé de sa vie ou pour qui c'est pas un problème, c'est pas un test. Au contraire, c'est comme on peut dire, c'est une, je dirais pas le mot parce que c'est un mauvais mot là, mais c'est plus un embêtement qu'autre chose, tu sais, veux dire. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Tu t'essayes de passer au plus vite. Ça t'attire pas du tout. Au contraire, ça te répugne, cette fumée-là. Mais, t'en fais pas de cas. Faut tolérer. Alors, tu passes, tu fais ton chemin, puis tu chantes avec Krishna, puis that's it, c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
C'est juste pour, excuse-moi. Vas-y.
Ah. C'est que dans des habitudes humaines, c'est l'énergie de Maya qui se manifeste puis qu'on a laissé agir pendant longtemps en tant que fumeur, par exemple. Mm. Fait que si on arrête de fumer du jour au lendemain, cette énergie-là agit en nous quand même, mais il faut qu'elle dissipe graduellement, puis c'est elle qui peut ressurgir. Fait que c'est pas nécessairement Krishna qui veut ça, mais c'est ce que nous avons créé avant qui fait que ça nous pousse à agir d'une certaine façon, sans notre consentement, d'une certaine façon.
Oui. Disons, dans le nectar de dévotion, c'est expliqué les réactions pécheresses. Alors, elles viennent en différents degrés. Alors, ça serait un texte à relire à un moment donné, là. Mais c'est dans les débuts du nectar de la dévotion, d'expliquer les réactions en chaîne. Alors, un dévot doit être tolérant, C'est ce que Krishna dit dans le Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 14. Bonheur et joies et peines vont et viennent comme été et hiver vont et viennent. Elles sont dues à la perception des sens et on doit apprendre à les tolérer sans être affecté. Alors ça, c'est l'instruction de Krishna. Alors, comment éviter d'être affecté? Ça veut dire que ton mental ne doit pas être dans ces dualités-là, mais il doit être plutôt absorbé en Krishna, la conscience de Krishna. Alors, c'est pas facile, c'est pas toujours facile, mais c'est ce que Krishna dit. Et puis, that's it, that's all. Alors, un dévot prend refuge du service de dévotion, et puis chaque dévot a un service qu'il doit considérer. Ah, c'est Krishna lui-même qui m'a donné ce service-là. Alors, si on pense à Krishna, puis si on pense que c'est Krishna qui m'a donné ce service-là, ben, à quoi d'autre tu veux penser? Je vais donner un exemple. Au temple de Paris, Prabhupada était là, j'étais là, au temple de Paris quand Prabhupada était là, il est venu plus d'une fois. Prabhupada venait à Paris à peu près une fois par année. Il est venu au moins cinq fois, ou minimum quatre, disons cinq, peut-être six fois à Paris chez Prabhupada. Et quand tu vis dans le temple, tu vis pas indépendamment de la structure hiérarchique qu'il y a dans le temple. Sinon, t'as pas de place. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un hôtel, là, le temple, là. Tu sais, tu peux pas dire, ah, je suis là, mais je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, de la façon que tu veux. Ça marche pas comme ça. Situé au temple, il y a quelqu'un qui va dire, oh, mon Prabhu, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça? Pourrais-tu faire tel service? Ou quelqu'un va te demander, si personne ne te connaît, ils vont finir par te connaître. Ils vont voir jusqu'à quel point tu es disposé à faire du service. Là, ils vont se faire une idée. Mais si tu es un dévot qui est moindrement dévot, sans problème, ils vont te demander, ben Prabhu, ils vont pas dire on te connaît pas. Ils vont dire, on aurait besoin de tel ou tel service. Penses-tu que tu serais capable de faire ça? Ça, c'est si on te le demande. Mais ça c'est genre plus, comment on peut dire? C'est pas la norme. La norme, c'est, Prabhu, tu vas faire ci, tu vas faire ça. En tout cas, dans les débuts du mouvement, là. C'est à peu près ça, là. On te demande pas ton opinion. On te dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça. De la façon qu'ils veulent bien te le dire, là. Mais en bout de ligne, ça revient à ça. On a besoin de tel service. On a besoin de quelqu'un. Alors, le quelqu'un, on pointe du doigt, c'est toi le quelqu'un. Ben, dis, regarde, Prabhu, on a besoin de ça, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Correct? Même pas le temps de répondre, tu es déjà parti. Alors, tu as le service. Puis là, ben, comment tu vas penser? Si tu es là juste pour servir, il n'y a aucun problème. Parce que tu as joint le mouvement pour la conscience de Krishna pour servir Krishna. Alors, tu vas accepter relativement, en fait, sans poser de questions. Puis là, tu vas peut-être poser une question, penses-tu que je me sens pas qualifié, Prabhu, pour faire ça? Mais ils vont pas considérer. Ils vont dire, hey, Prabhu, on te le demande, là, puis c'est ça que ça veut dire. Fais-le, Prabhu. Puis là, ben, tu fais le service. Mais comment tu ne peux pas penser autrement que c'est Krishna qui m'a donné ce service-là? Voyez-vous l'agencement, comment ça marche? C'est Krishna qui m'a donné ce service-là. Tu sais, mettons un dévot, là. Il était déjà camionneur avant de joindre le mouvement. Là, il arrive au temple, il dit, OK, moi, je veux devenir dévot, les Prabhus. Là, ils vont lui demander, ben, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, toi? Surtout s'il y a un certain âge, là, tu sais, il arrive pas un petit jeune de 20 ans, là. Mettons qu'il a 35 ans, là. C'est pas dans la moyenne, d'habitude, là. D'habitude, c'est des petits jeunes dans la vingtaine ou quelque chose, là, qui ont l'énergie, puis ils veulent joindre le mouvement, puis c'est le fun au bout. Puis ils se cassent pas trop la tête, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, là. Ça, c'était mon genre, en particulier. Alors, pas d'expérience dans la vie, mais du bon vouloir pour servir Krishna. That's it. Alors, mais supposons que t'as un dévot, là, que lui, c'est un camionneur de métier. Puis là, il dit ça au dévot. Moi, je suis un camionneur de métier. Là, il y a quelqu'un qui va penser, ça va allumer vite, là. On dit, hey, on a un camionneur, on peut-tu l'engager au service de Krishna? Sûr qu'on va l'engager au service de Krishna. On va l'envoyer faire les commissions pour le temple, toutes les courses pour le temple. Si on peut dire, livrer des livres en quantité à des dévots. Il y a bien des services qui peuvent être faits pour le mouvement. Si un dévot est camionneur, un autre dévot, mettons qu'il est dentiste par hasard. Ça, j'en ai jamais vu qui ont joint le mouvement dentiste, là. Mais ils vont lui dire, bon, ben, Prabhu, installe-toi une salle de dentisterie ici, puis soigne les dévots. Hey, tu vas avoir des dévots qui vont venir de partout. Il y a un dentiste dans le mouvement, là. En général, il n'y en a pas, là. J'ai jamais vu ça. Mais une fois, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, en France, j'étais en train de faire du sankirtan, en train de vendre des livres. On faisait du porte-à-porte. Puis en France, on se disait, on fait toutes les portes. On n'en manque pas une parce que le territoire est trop petit. Si on commence à juger, celle-là est bonne, celle-là est pas bonne, chut, on va brûler le territoire. Si on a appris ça vite en France, qu'il fallait pas faire comme ça. Alors, il faut faire toutes les portes, une après l'autre, systématiquement. S'il y a 15 portes à l'étage, t'en fais 15. S'il y en a deux, t'en fais deux. Puis s'il y en a 30, t'en fais 30. C'est aussi simple que ça. Alors, à un moment donné, j'arrive chez un dentiste. Alors, je présente le livre et tout ça. Puis je voudrais bien qu'il me fasse une donation. Alors le dentiste me dit, je vous donnerai pas d'argent, mais je vais vous examiner. Fait que là, il m'examine, il me regarde les dents, tout ça, puis il me fait, je pense, un petit plombage, un petit quelque chose. Puis je sais pas, moi, ça a pris une demi-heure ou quelque chose. Puis merci beaucoup, il m'a pas chargé un sou. Ça, c'était sa donation qu'il a fait. Alors, donne un livre pour ce geste-là. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la grâce de Krishna. Tu peux engager tout le monde au service de Krishna s'ils ont moindrement un peu de volonté d'entrer dans le jeu, si on peut dire, entre guillemets. Et tout le monde peut participer. C'est ça qui est beau avec la conscience de Krishna. C'est avec n'importe quel talent que quelqu'un a, il peut faire quelque chose pour Krishna. Ça prend un dévot ou deux, trois dévots pour aiguiller la personne, tu sais, pour le guider et puis l'engager dans le service offert à Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Continuez. On est rendu à 1.12. Non, on l'a lu, ça. On est rendu à 1.13. Alors, Virginie, veux-tu lire, s'il te plaît?
1.13. Parmi les 10 offenses pouvant être commises au cours du chant des saints noms du Seigneur, celle qui consiste à commettre sciemment des actes coupables, fort de croire que le chant du Mahamantra en effacera les conséquences, porte le nom de Namo Balad Yashya Ipapa Bouddhi. Il n'y a pas de pire mentalité, il n'y a pas de pire façon de se condamner soi-même. Nous présentons à cet effet une classe de Srila Prabhupada sur le nectar de la dévotion le 7 novembre 1972 à Vrindavan. Pradyumna. Un autre exemple est donné dans le Srimad Bhagavatam de l'éléphant qui entre dans un lac et prend un bain très complet, nettoyant son corps à fond, Srimad Bhagavatam 6.1.10. Puis dès qu'il sort sur la rive, il prend à nouveau de la poussière de la terre et la jette sur son corps. De même, une personne qui n'est pas formée à la conscience de Krishna ne peut se libérer complètement du désir d'activité pécheresse. Ni le yoga, ni les spéculations philosophiques, ni les activités intéressées ne peuvent sauver quelqu'un des graines du désir, des désirs coupables. Ce n'est qu'en s'engageant dans le service de dévotion que l'on peut y parvenir. Prabhupada, l'éléphant, Ashti Snana, c'est un exemple très pratique.
OK,
L'éléphant.
un moment. Je vais expliquer ces deux mots-là, là. Asti. Asti, ça veut dire éléphant
Ah,
en
d'accord.
sanskrit. Et snana, ça veut dire le bain. Alors, asti snana, ça veut dire le bain de l'éléphant. OK? Continuons.
C'est un exemple très pratique. L'éléphant se baigne dans le lac, se jette de l'eau à profusion sur le corps et se purifie. Et dès qu'il arrive sur le rivage, il reprend de la poussière et la répand sur tout son corps. Il s'agit là d'exemples de la nature. De la manière même, il existe différents processus pour se libérer des réactions d'activité pécheresse. Mais si vous faites pareil, mais si nous commettons à nouveau ces activités pécheresses, alors à quoi sert cette pénitence? Ou prayaschitta, ashti snana. L'exemple est donné comme suit, ashti snana. Par exemple, il est dit qu'en chantant le mantra Hare Krishna, on est immédiatement libéré de toutes les activités pécheresses. Eka Hari Namayata Papa Kari Papi Ayatato Papa Kari Bare Nare. C'est un fait, tout comme Ajamila. Sa vie entière était remplie d'activités pécheresses, mais au moment de la mort, parce qu'il a prononcé le saint nom de Narayana, il a été immédiatement libéré. C'est un fait. Mais si nous commettons à nouveau des activités pécheresses, à quoi bon chanter le mantra Hare Krishna? Nanmo Balad Yashya I Papa Buddhi Padma Purana Brahma Kanda 25.16. C'est l'une des 10 offenses. Si quelqu'un pense que je chante Hare Krishna mantra, il contrecarre tous les effets de ma vie pécheresse, je peux alors m'engager et chanter Hare Krishna. C'est une très bonne affaire. Non, c'est une très grande offense. Namno Balad Yashya I Papa Buddhi. Il ne faut pas se laisser aller de la sorte. Jagai et Madai n'ont été acceptés par le Seigneur Chaitanya que sur la promesse de ne plus commettre d'activité pécheresse. La miséricorde du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est là pour tout le monde. Il peut accepter tout le monde. Une personne qui a péché n'est pas disqualifiée pour autant. En effet, en cet âge, le Kali Yuga, tout le monde est plus ou moins pécheur. Personne ne peut donc prétendre être libéré en chantant le mantra Hare Krishna. Le mantra Hare Krishna vous empêchera de commettre toute activité pécheresse à condition que vous ne les commettiez plus. Sinon, ce sera comme le Asti Snana. L'exemple de l'éléphant, et ce sera une grande offense. Si en chantant Hare Krishna mantra, nous continuons à commettre des activités pécheresses, c'est une grande offense. Nous ne devrions pas faire cela. L'idée est qu'en chantant le mantra Hare Krishna, nous nous libérons de la réaction du péché. Nous nous libérons de la réaction de la vie pécheresse. Mais cela ne signifie pas que nous devrions à nouveau nous livrer à la vie pécheresse et à la contrecarrer en chantant Hare Krishna, en chantant le mantra à deux Hare Krishna. Non, pas comme ça. Une fois que vous adoptez le mantra Hare Krishna, Vous devez faire des progrès rapides sans commettre d'activités pécheresses et retarder le progrès. Ne faites pas cela. La dernière phrase est très instructive. Une fois que quelqu'un a adopté le mantra Hare Krishna, il doit progresser rapidement dans la conscience de Krishna et s'abstenir de tout acte coupable qui pourrait retarder son progrès dans la vie spirituelle. Que veut dire progresser rapidement? Augmenter la mise en place du pouvoir récurrent de la conscience de Krishna, c'est-à-dire de s'immerger dans l'écoute et le chant de tout ce qui a trait à Krishna. Devenir très enthousiaste d'écouter, voire archi-enthousiaste, ne peut que contribuer au progrès spirituel. Un tel enthousiasme fait de toute évidence appel à une grande détermination et un sens de la discipline. C'est ce dont est fait le tapasya. Pratiquement parlant, il est impossible de progresser spirituellement sans tapasya. Relève de la vertu, le tapasya, qui consiste en une pénitence ou une austérité acceptée volontairement, accompli par devoir, sans motif de gain matériel, mais en vue de plaire à Dieu, la personne suprême. Il y a différents types de tapasya et l'on devrait se familiariser avec tous les types d'austérité que décrit la Bhagavad Gita telle qu'elle est de Srila Prabhupada. On parle d'austérité du corps, du verbe, du mental, tout en termes des trois gunas au chapitre 17, versets 14 à 19. On devrait estimer notre position individuelle en rapport avec l'accomplissement du tapasya. Srila Prabhupada nous éclaire sur le tapasya dans une classe qu'il donna à Calcutta le 22 mars 1975.
Bien,
Question.
merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, il y a une expression québécoise qui veut que, en français, sûrement une autre façon de le dire, là, mais en québécois, on dit, donne-leur un pouce, ils vont prendre une verge. Il y a une expression en français, j'ai regardé l'autre jour dans le dictionnaire, en tout cas, j'ai fait une recherche sur Internet. Il y a une façon de le dire à la française, mais ça veut dire la même chose. Et tu concèdes 1 centimètre, ça va finir par devenir 1 mètre. Alors, la vie pécheresse, c'est comme ça. Alors, comme Prabhupada vient de dire ici, là, on chante Hare Krishna, le mantra purifie de tous les péchés, les réactions pécheresses, à condition, comme c'est dit ici, je vais le lire là. Le mantra Hare Krishna vous donnera, vous empêchera de, c'est à la ligne 11, page 14, ligne 11, vous empêchera de commettre toute activité pécheresse au pluriel, à condition que vous ne les commettiez plus. Sinon, ce sera comme le astisnana, l'exemple de l'éléphant, et ce sera une grande offense. Alors, l'offense de, justement, commettre des activités pécheresses sciemment, mais en pensant, ah, le Maha Mantra va me contrecarrer tout ça. Et puis, la vie est belle. Et ça, c'est la pire des offenses. Alors, on devrait, comment on peut dire, être vraiment conscient de Krishna, ne pas jouer avec le feu, suivre les principes, et puis s'en tenir là, c'est tout. Point final. Mais ça vient avec le temps. C'est pas évident pour du jour au lendemain. C'est à force, peut-être, d'avoir manqué son coup, d'avoir commis des offenses. Parce que c'est normal que dans les débuts du chant Hare Krishna, le stade de débutant est appelé un stade offensif. C'est-à-dire qu'il y a des offenses qui se commettent pendant le chant du Maha Mantra. Mais, avec le chant, avec la purification, finalement, quelqu'un va arriver à chanter sans offense. Mais ce n'est pas la perfection. On s'est dit qu'il y a trois étapes. Un, le chant avec offense. Deux, le chant sans offense. Et troisièmement, le pur chant. Le chant pur. Et une autre étape est l'étape de la perfection. Le chant pur. Il n'y a pas d'offense. Mais il y a plus, parce que c'est un chant qui est par pur amour pour Krishna, en pur amour pour Krishna. Alors ça, c'est révélé aux dévots. Alors, comme Krishna dit, ceux qui s'engagent, totalement à son service, Krishna dit, je donne l'intelligence par laquelle on peut venir à moi. Alors, on peut venir à moi, là, ce genre d'intelligence-là, ben, c'est une intelligence qui fait que le dévot va éviter les pièges de Maya, va éviter les activités de péché, et puis s'en tenir, être réfugié dans les activités conscientes de Krishna. Ça, c'est la purification qui suit son cours de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Les gens, dans le fond, qui agissent comme les éléphants, c'est pas étonnant qu'ils puissent constater que pour eux, ça fonctionne pas.
Oui. Mais il y a des gens qui ont le toupet de faire et refaire, de faire et refaire. Comme Prabhupada donne l'exemple dans ses classes, il donne l'exemple des chrétiens qui vont une fois par semaine à la confesse, se confessent tout, puis le lendemain, ils recommencent les mêmes activités pécheresses. Alors, ça prend la grâce de Krishna pour voir clair où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce que l'on fait. Et il faut être honnête. On a parlé au tout début de la lecture ici, la duplicité, c'est d'entretenir des désirs matériels en même temps qu'on veut poursuivre une vie spirituelle. Alors, les désirs matériels, ça veut dire, ça c'est pour moi, puis la vie spirituelle, ah, ça c'est pour Krishna. Alors, il y a comme une dualité, là. Alors, c'est une duplicité. Alors, une duplicité, ça veut dire aussi, ça paraît pas nécessairement, mais c'est là pareil. Alors, notre intention, c'est de ne pas condamner personne. On n'est pas là pour ça. Et Srila Bhaktisiddhanta, le maître spirituel de Srila Prabhupada, s'il avait quelque chose qu'il avait en horreur, c'était justement qu'il y ait des dévots qui pratiquent la conscience de Krishna avec duplicité. Ça, là, il y avait bien de la difficulté à supporter ça. Alors, Srila Bhaktisiddhanta, juste à le voir, évidemment, je l'ai jamais vu en personne, là. Tu peux pas parler que je l'ai vu en personne, parce que c'est une autre époque, c'est des années 30, là. J'étais même pas né dans ce temps-là, là. Mais, toujours est-il que tu regardes une photo de Srila Bhaktisiddhanta, sa présence est là, là. Ça veut dire, puis lui, là, il a été brahmachari pur pendant toute sa vie. Alors, faut le faire, là. Et Prabhupada dit, Srila Bhaktisiddhanta, il n'a jamais perdu la moindre goutte de sperme de sa vie. Ça, c'est un vrai brahmachari. Alors, juste à regarder la photo de Srila Bhaktisiddhanta, il se tient très droit, puis il est sérieux. Puis si tu lis des conférences de Srila Bhaktisiddhanta, c'est, mettons, attache ta tuque parce que c'est vraiment élevé. C'est très, très avancé et très difficile même de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais toujours est-il que le feeling que tu as, ben, c'est très avancé comme discours conscient de Krishna. C'est pas du Srila Prabhupada, là, que n'importe qui attrape le livre puis comprend tout de suite, là. Pas ça du tout. Alors, chaque pur dévot son style, là. Puis il y a pas question de dire, ben lui est meilleur que l'autre, là. C'est pas ça, là. On devrait pas penser comme ça, là. Mais c'est deux maîtres spirituels qui sont ultra qualifiés et qui sont mis en pouvoir par Krishna pour accomplir une mission. La mission de répandre la conscience de Krishna, c'est tout. Ils ont juste ça en tête et dans leur cœur, de plaire à Krishna en accomplissant la mission, justement, de répandre le mouvement du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est très simple. Alors, la duplicité, là, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de faire son examen de conscience. Et puis, disons, mettre un petit coup de barre que c'est vraiment pas une chose qu'on doit garder à bord du bateau. On doit balancer ça par-dessus bord. C'est absolument pas nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je veux dire, Prabhupada, ce serait comme la maternelle. Non, je veux dire, vraiment, au début de tout, hein, on connaissait rien de tout ça. Puis, la maternelle, première, deuxième, troisième année, tu veux dire.
Ouais, puis où est-ce qu'il y a après?
Ben, après, je veux dire, on a eu les diplômes, on a passé, là, quand on rentre brahmachari, tu veux dire, là, tu rentres à l'école primaire, là. Après, t'as le collège, l'université, la même chose, là, mais c'est pas des livres comme un bac ou quelque chose comme ça, comme ta cour, que lui, c'est vraiment profond. Là, c'est vraiment rentré, t'avancer vraiment tellement profond dans tout ça, là, c'est comme t'es après de faire un bac, là, genre.
Oui, c'est deux types de littérature. Ils sont toutes les deux concernent de Krishna. Et puis, Śrīla Prabhupāda ne voulait pas qu'on approche son maître spirituel sans passer par lui. On passe pas par-dessus un gourou pour aller à un autre gourou. Alors, si on a un gourou, on a accepté Śrīla Prabhupāda, ben, on s'en tient à Prabhupāda. Et si on veut avoir de, mettons, de, disons qu'on appelle ça comme ça, là, de la haute gomme, de la conscience de Krishna, ben, on peut en trouver avec Śrīla Prabhupāda aussi, dans le Chaitanya Charitamrita. Là où on veut, on peut en trouver. Et pourquoi c'est comme ça? Même aussi si ça paraît simple, 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 c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une connaissance qui est révélée. Alors, tu peux lire beaucoup de lignes. Ça te passe par-dessus la tête, là. Même si ça a l'air simple, même si ça a l'air compliqué. C'est une connaissance, quand Krishna veut qu'elle te soit révélée, elle va t'être révélée. Alors, il y a un mélange, là, de grâce de Krishna, de grâce du maître spirituel pour comprendre justement, obtenir la connaissance spirituelle. Est-ce que ça répond à la question? OK. Alors, c'est ça. Alors, là, on parle du tapasya. OK, on va lire encore un petit bout. Virginie, veux-tu lire, s'il te plaît? Page 14, ligne 39.
Oui, c'était Śrīla Prabhupāda nous éclaire sur le tapasya dans une classe qu'il donna à Calcutta le 22 mars 1975. Question. Ne peut-on pas obtenir Krishna sans se donner de mal? Prabhupāda. Voulez-vous l'avoir sans payer le prix? Vairagya. Il faut pratiquer le renoncement, ce qui implique des difficultés volontaires. Tout comme je suis habituée à manger un certain type de nourriture, mais je dois y renoncer pour l'amour ou le plaisir de Krishna. C'est un peu difficile. C'est ce qu'on appelle tapasya ou austérité. Tapasya signifie que j'ai un certain attachement pour quelque chose et les Écritures disent que je dois abandonner cet attachement. J'ai du mal à y renoncer. Le fait de se donner volontairement cette peine est appelé tapasya. Tapo, diviam, Putraka, Yena, Sadvam, Sundi. Srimad Bhagavatam 5.5.1. Si vous voulez purifier votre existence, vous devez accepter de faire tapasya. Sans tapasya, ce n'est pas possible. Le Srimad Bhagavatam 5.5.1 se lit comme suit. Je vais directement
Oui, va directement à la traduction, s'il te
la
plaît.
traduction. Sri Rishya Badeva.
Rishabhadev.
Rishabhadev, Sri Rishabhadev dit à ses fils, mes chers enfants, d'entre tous les êtres ayant revêtu en ce monde de décors matériels, ceux auxquels une forme humaine a été octroyée ne devraient pas peiner jour et nuit en vue du seul plaisir des sens, accessible même aux chiens et aux porcs qui se nourrissent d'excréments. Ils devraient plutôt pratiquer la pénitence et l'austérité pour atteindre le niveau divin du service de dévotion. Grâce à cette pratique, le cœur se purifie et on découvre alors une existence éternelle et toute de félicité qui transcende le bonheur matériel et dure à jamais.
Jai, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, il y a un mot qu'on a lu au tout début, là, Vairagya, à la page 14, ligne 44. Alors, Vairagya, le mot Vairagya, ça veut dire renoncement. Alors, on renonce au plaisir. Le tapasya, tapa veut dire austérité. Et asya veut dire de la personne. Alors, tapasya, la personne volontairement fait une austérité. Alors, elle renonce à quelque chose d'inférieur pour quelque chose de
De
supérieur.
supérieur.
Alors, ça, c'est le tapasya. Et sans tapasya, il n'est pas question de vie spirituelle. Pourquoi? Krishna dit dans le Srimad Bhagavatam, deuxième chant, neuvième chapitre, il y a quatre versets du Seigneur Brahma. Et ça, on appelle ça Chatur Shloki. Les quatre versets, ces quatre versets-là, là, ça résume tout le Srimad Bhagavatam. Et ces versets-là sont liés au tapasya. Et Krishna il dit que, justement, le tapasya, c'est son âme, le tapasya. C'est Krishna qui dit ça. Dit ça au Seigneur Brahma. Alors, c'est sa vie et son âme, Krishna dit. Alors, si on veut plaire à Krishna, là, il n'y a pas d'autre alternative que passer par une forme de tapasya. Mais ça peut pas être une forme que j'invente, que je me dis, parce qu'il y en a qui, le tapasya dans l'ignorance, là, c'est pratiquement de la torture. C'est s'infliger des souffrances. C'est comme dans le temps de Pâques, là, ils vont montrer ça dans les documentaires, là. Il y a des gens qui ils font comme Jésus. Ils portent la croix, puis des épines, puis flagellent à gauche, puis à droite. Ils sont en sang. Puis, c'est ça que Jésus veut? No way. Pas ça, là. T'es à côté de la plaque, comme on dit. Alors, peut pas inventer. Alors, dans la Bhagavad Gita, l'austérité dans la vertu, c'est comme on vient de lire là, c'est fait par devoir. Alors, le devoir, il n'y a pas de raison d'en mettre plus ou d'en mettre moins. Tu sais, c'est comme par exemple, suivre les quatre principes et chanter 16 tours par jour. Prabhupada dit, ça c'est votre, il parle aux dévots, là. Il dit, ça c'est votre forme d'austérité à vous autres. Il en demande pas une tonne, là. Il demande 2 heures par jour, 2 ou 3 heures par jour, chanter le Maha Mantra, puis suivre les quatre principes. Ça c'est l'austérité minimum pour être conscient de Krishna. Dans le temps de Srila Bhaktisiddhanta, les disciples de Srila Bhaktisiddhanta, pour eux autres, Srila Bhaktisiddhanta disait, c'est quelqu'un qui chante pas 64 tours par jour est considéré déchu. Et Prabhupada, lui, il sait, les Occidentaux, ils vont pas chanter 64 tours par jour, c'est impossible. Alors, il a dit minimum 16 tours. Ben, c'est 2 heures, 3 heures par jour, chanter le Mahamantra sur le Japa Mala, sur le chapelet. Et ça, c'est la grâce de Prabhupada. Il a ajusté les critères à suivre pour qu'on ait la conscience tranquille. Ça aussi, c'est super bien. T'sais, supposons que Prabhupada avait dit qu'il faut chanter 64 tours par jour, puis il n'y a pas un chat qui est capable de faire ça. Comment qu'on va se sentir? On va sentir, hey, j'y arriverai jamais. C'est même pas la peine de continuer, là. Il y en a beaucoup qui vont penser comme ça. C'est décourageant partant.
Oui.
Hey, un moment, là.
Beaucoup auraient lâché le mouvement aussi, hein.
Oui, il n'y en aurait
Parce
pas
qu'au
de
bout d'un
mouvement.
moment, tu te dis, bon, ben, si j'y arriverai jamais, c'est pas possible, quoi.
C'est ça. Puis en plus, tu vois, dans le monde d'aujourd'hui, disons, au début du mouvement, les dévots étaient dans des temples. Une grande majorité n'était même pas mariée à cette époque-là. C'était des petits jeunes dans la vingtaine. Mais avec le temps, puis ça n'a pas pris tellement de temps que ça, tout le monde s'est marié. Une fois marié, là, qu'est-ce qui arrive? Le temple se vide. Il n'y a pas grand dévot qui vit dans des temples, à part des brahmacharis, là, puis des brahmacharini. Et c'est comme ça. Mais il y a une communauté de dévots qui gravitent autour du temple. Puis ces dévots-là, ben, ils doivent ne pas négliger le temple non plus. Ils vont aller au temple régulièrement, faire des dons au temple, supporter le temple. Puis le mouvement continue de cette façon-là. Ça, c'est la grâce de Prabhupada aussi. Il n'y a personne d'exclu. C'est une question de trouver sa place, manifester un désir de rendre service. Et si quelqu'un est camionneur, ben, il y aura un camion. Il fera des services pour Krishna. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, le verset qu'on a lu en dernier, là, Rishabhadev. Rishabhadev, c'est Krishna lui-même. C'est une incarnation de Krishna.
Okay.
Rishabhadev avait 100 fils. Alors, c'est Rishabhadev qui enseigne à ses fils. Pourquoi, disons dans le verset, là, la morale du verset, c'est pourquoi vous voulez travailler très dur pour avoir le même bonheur que les chiens, les porcs, les mangeurs d'excréments ont? Ça, vous pouvez avoir ça dans n'importe quelle vie. Même dans ces espèces de vie inférieures, vous pouvez avoir ça. Mais il dit, par contre, si vous faites tapasya, vous pouvez purifier votre existence pour atteindre ce qui est appelé ici, là, si on regarde le mot à mot en haut, Brahma Sokyam Tvanantam. Alors, Brahma Sokyam veut dire le bonheur spirituel et Anantam, sans fin. Un bonheur spirituel qui n'a pas de fin. Si vous, justement, vous y allez par le service de dévotion, puis le service de dévotion, c'est une austérité en soi, là. Et l'austérité sans service de dévotion, ça veut presque rien dire. Alors, ça prend les deux, une combinaison des deux. Alors, voilà. C'est questions, commentaires?
On réapprofondira la teneur et portée le cours prochain.
Oui, c'est ça, le prochain cours, parce qu'on va même recommencer, là. On va
Oui,
probablement
voilà.
y aller
Oui,
du début.
oui.
Et on continuera, parce que c'est très intéressant, le cinquième chant de Srimad Bhagavatam. Très pertinent. Alors, merci beaucoup d'être venu au cours. C'est très
Et
apprécié.
merci beaucoup. Merci beaucoup, Hare Krishna.
Hare Krishna, et puis on
Krishna,
se voit
Hare
samedi.
Krishna. Ben oui, à
À
samedi, du coup.
samedi. À samedi. Merci. Hare
Hare Krishna,
Krishna.
allez, à très vite.
Ouais,
Ils ont
allez, allez, bon, jai.
Allez, allez, bon.
Allez, Krishna, jai.
Ciao.
Ah, là, là. Là, là.